Frères et sœurs, merci pour ce temps de culte déjà vécu ensemble et puis de m'avoir proposé d'apporter aujourd'hui un message. Comme le disait Émilie, c'est vrai que ça m'a un peu travaillé quand même aussi, savoir ce que je pouvais vous dire. Mais vous savez, quand on prépare un message, c'est d'abord à soi-même qu'on l'adresse. Moi, en tout cas, dans mon expérience, ça a souvent été le cas. Plutôt que de me dire, tiens, je vais adresser telle parole à la communauté, c'est d'abord à moi-même que la parole s'adresse. Et j'avais envie ce matin de vous raconter à nouveau l'histoire de deux frères qui ont eu du mal à s'entendre et de deux sœurs qui ont eu aussi du mal à s'entendre. Et les deux frères et les deux sœurs sont liés les unes et les autres, puisqu'il s'agit de Jacob et Ésaü et de Rebecca et de Léa et Rachel. Et dans ces deux relations entre frères et sœurs, se sont jouées des difficultés majeures, compliquées. Et pourtant, en relisant ces textes, en pensant à moi, en pensant à ma relation dans ma propre famille, et dans les relations que nous pouvons vivre dans nos églises, dans nos communautés, et bien au-delà encore, entre hommes, je pense au conflit entre Israël et la Palestine, ou à d'autres endroits, où une très grande proximité engendre aussi des fois une très grande rivalité. Et bien en repensant à cela, je me suis dit que le Seigneur me remettait, moi, sur un certain chemin de compréhension de ce qu'il entend de nous, en tant que communauté, pour que nous demeurions fidèles à sa promesse, que nous soyons des frères et des sœurs les uns pour les autres. Je lirai pour commencer au livre de la Genèse, un petit bout du chapitre 27, à partir du verset 13. Isaac était devenu vieux, ses yeux s'éteignaient et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !»« Me voici, » répondit Ésaü. Isaac reprit « Tu vois que je suis devenu vieux et j'ignore le jour de ma mort. Il est temps, emporte donc tes armes, ton carquois, ton arc, cours la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un mets comme je l'aime, apporte-le-moi et je le mangerai pour te bénir moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Celui-ci partit dans la campagne pour chasser et rapporter du gibier. Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici que j'ai entendu ton père parler à Ésaü, ton frère, et il lui disait, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un mets pour que j'en mange. Je te bénirai en ma présence et en la présence du Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va donc au troupeau, prends-y pour moi deux beaux chevreaux et j'en préparerai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu l'apporteras à ton père et il mangera pour te bénir avant sa mort. » Et Jacob répondit à sa mère, « Si mon frère Ésaü est un homme velu, moi je n'ai pas de poils. Il est possible que mon père me palpe et me considère comme un imposteur, j'attirerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Vienne sur moi ta malédiction, mon fils, lui dit sa mère. Écoute-moi seulement, va me prendre ce que je t'ai dit. Elle recouvrit de peau de chevreau les mains et la partie lisse du cou de Jacob, qui revêtit aussi les habits de son frère Ésaü, et elle déposa dans les mains de Jacob le mets et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra ainsi chez son père et dit « Mon père, me voici. » Dit Isaac « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'en prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me bénir moi-même. » Isaac répondit à son fils « Comme tu as trouvé vite, mon fils, le gibier. » Jacob répondit, « C'est que le Seigneur m'a porté chance. » Isaac dit alors à Jacob, « Viens plus près, mon fils, que je te palpe. Es-tu bien mon fils Ésaü ou non ?» Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le palpa et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Isaac ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme celles d'Ésaü, son frère. Et Isaac le bénit. Il lui dit, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?»« C'est moi, » répondit-il. « Serre-moi que je mange du gibier, que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta du vin et Isaac but. C'est alors que son père lui dit, « Viens donc plus près et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac huma l'odeur des vêtements et le bénit en disant, « Oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de gras terroir, du froment, du vin nouveau. » Que des peuples te servent et que des populations se prosternent devant toi. Sois chef pour tes frères et que tes fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. » À peine Isaac avait-il achevé de bénir Jacob et à peine Jacob avait-il quitté son père qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il prépara un mets qu'il apporta à son père, puis il lui dit, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, ainsi pourra-t-il me bénir moi-même. » Son père Isaac répondit, « Qui es-tu ? » ? « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Isaac fut saisi d'un tremblement extrêmement violent. Et il dit, « Quel est donc celui qui a été à la chasse et m'a rapporté du gibier ? J'ai mangé de tout. Avant que tu n'entres, je l'ai béni, et béni il sera. » Et un peu plus loin, au verset 37, Isaac prit la parole et dit à Ésaü, « Vois, j'ai fait de Jacob ton chef. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment, de vin nouveau. Que puis-je faire pour toi, mon fils ?» Ésaü répondit à son père, « N'as-tu qu'une seule bénédiction ? Bénis-moi aussi. » Ésaü éleva la voix et pleura. Alors Isaac prit la parole et dit, « Vois, hors du gras terroir sera ton habitat et loin de la rosée qui est au ciel. De ton épée tu vivras, mais tu serviras ton frère. Et au cours de tes randonnées, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait obtenue de son père, et il se dit en lui-même, « L'époque du deuil de mon père approche et je pourrais tuer mon frère Jacob. » On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici que ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant écoute-moi, fuis chez mon frère à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps, peut-être que ton frère reviendra de sa colère. Quand la fureur de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, je t'enverrai chercher. Pourquoi serais-je privé de mes deux fils en un seul jour ? » Frères et sœurs, il y a un psaume qui nous dit qu'il est bon de vivre ensemble en frères. C'est le psaume 133. Et heureusement qu'il y a cette parole, parce que dans l'Écriture, il y a beaucoup d'autres récits qui nous montrent que ce n'est pas d'évidence. Le premier être humain à mourir dans l'Écriture, dans la longue lignée de l'humanité, c'est un homme tué par un autre homme, mort violente. Non seulement mort violente, mais c'est un frère qui a tué son frère. Premier mort de l'humanité, il est mort de la main de son frère. Et si la Bible ne nous dépeint pas la fraternité comme quelque chose de tout rose, de tout lumineux, c'est bien pour nous dire que la fraternité est à la fois quelque chose de beau et quelque chose qui est de l'ordre d'un combat, qui n'est jamais complètement donné. C'est vertigineux pour moi de penser que le premier meurtre d'un homme par un autre, c'est le meurtre du frère. Et après ce premier meurtre, il y en a eu hélas beaucoup d'autres. Et toute la Bible est pleine de ces récits. Je pense en particulier au roi Salomon dans sa jeunesse, pourtant réputé pour sa sagesse, qui va mettre à mort son frère Adonias pour être le seul à régner. Et pourtant, entre Salomon et Adonias, il y avait eu une rivalité, puis une réconciliation. Et malgré cela, de nouveau, la violence. Et je me suis dit que ce n'était pas un hasard si, lorsque Jésus appelle ses premiers disciples, dans l'évangile selon Marc, au premier chapitre, il y appelle deux fois de suite deux frères, Simon et André, Jacques et Jean. Comme s'il voulait dire que la fraternité, elle est à redécouvrir, non pas par les liens du sang seulement, mais aussi, et d'abord, parce que c'est lui, Jésus, qui rend possible la fraternité. C'est lui qui va redonner André comme frère à Simon, c'est lui qui redonnera Jean comme frère à Jacques. C'est bien le signe que la fraternité n'est jamais gagnée d'avance, mais que Dieu seul peut nous permettre d'aller au-delà des désaccords qui peuvent nous ronger. J'en viens à Jacob et Ésaü. Il y a une grande proximité entre ces deux frères-là. Je n'ai pas lu le début de leur histoire, mais ils sont jumeaux. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus en même temps, ils ont été portés en même temps dans le même ventre, et ils sont nés en même temps, ou presque. Et il me semble qu'entre jumeaux, il n'y a pas plus frère ou sœur. Et pourtant, dès le début, le récit nous montre que ces deux jumeaux, qui sont porteurs de personnalités bien différentes, ne vont pas réussir à s'entendre. L'un veut supplanter l'autre, prendre la première place, il est prêt à tout dominer, c'est Jacob. Et l'autre, Ésaü, pense beaucoup à son ventre, à ses muscles, à faire de la chasse. L'un reste plutôt à l'intérieur, l'autre ne cesse de parcourir la campagne. Isaac a deux fils, mais selon la tradition biblique, un seul sera béni. Et c'est là que ça nous interroge un peu. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a dans la Bible, souvent, deux manières d'être fils ou fille. Il y a deux façons d'être frère ou sœur. Il y a cette filiation, ce processus d'engendrement qui procède de la nature humaine, de la chair. Et puis une filiation qui, bien sûr, procède aussi de l'accouplement et de la naissance, mais qui procède aussi d'une bénédiction. C'est-à-dire d'une parole bienveillante d'un homme, et derrière cette parole d'un homme, c'est la parole aussi du Seigneur sur la vie de quelqu'un, une parole bienveillante, une parole d'accompagnement, une parole de promesse. Et cette parole passe par la bénédiction du Père. Et Isaac, en bénissant son fils, l'inscrit dans ce geste que le Seigneur a accompli dès le début de la création. Quand le Seigneur crée l'homme et la femme, il les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Et toute bénédiction dans l'Écriture est reliée à cette bénédiction première de Dieu lui-même. Que ce soit une bénédiction que l'on va donner à quelqu'un d'autre, que ce soit la bénédiction d'un couple, à l'occasion de son union par exemple. Et c'est pour cela que le livre de la Genèse est aussi appelé le livre des bénédictions chez les Juifs. Et à cette filiation spirituelle, celle d'une promesse, celle d'une bienveillance qui est donnée, correspond et bien sûr une filiation humaine. Mais la semence que Dieu sème, c'est celle de sa parole, d'une parole bienveillante, d'une parole d'accueil, d'une parole d'accompagnement, d'une parole qui met en marche, qui remet debout. Chaque génération est appelée ainsi, chez les patriarches de la Bible, chaque génération est appelée à transmettre cette première bénédiction, celle que Dieu a donnée en créant l'homme et la femme. Mais comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'exclure les autres. Ce n'est pas parce que Isaac aurait béni Ésaü que Jacob aurait été en dehors de la bénédiction ou qu'il aurait été exclu. Mais c'est simplement peut-être une autre façon d'intégrer tout le monde à cette bénédiction. Et d'ailleurs, Isaac le dit dans sa formule. Et de la même manière que Dieu l'avait dit à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi », avait dit Dieu à Abraham. Et de la même, en bénissant Abraham, Dieu étendait par un homme sa bénédiction sur un ensemble, sur un tout. En donnant sa bénédiction à Ésaü, Jacob, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à Jacob qui s'est fait passer pour Ésaü, Isaac dit « celui qui te bénit sera béni lui aussi ». Donc, ce n'est pas une bénédiction d'exclusion, c'est une bénédiction d'intégration. Mais ça, Jacob ne l'a pas compris, comme nous ne comprenons pas souvent que ce que les autres ont et que je n'ai pas, ce n'est pas quelque chose qui devrait engendrer en moi de la frustration, mais qui devrait plutôt engendrer en moi de la reconnaissance parce que l'autre a ce que je n'ai pas, et puis un accueil de ce que l'autre a reçu. On pourrait se dire que c'est un peu idiot qu'un seul soit béni, puisque ça vient justement cette forme d'exclusivité, faire grandir cette fissure qui existe depuis la naissance entre ces deux garçons, entre Ésaü et Jacob. Et moi, je me dis que si Dieu veut passer par un pour bénir tous, ce n'est pas tout à fait au hasard. Pour moi, être frère et sœur, ce n'est pas être sur le même plan d'égalité partout, tout le temps. Mais c'est au contraire donner place à ce que chacun, chacune est porteur, porteuse de ce que Dieu a pu donner, mettre dans le cœur. Il faut que cette bénédiction emprunte le chemin de chacune, de chacun, pour qu'il rejaillisse un jour sur tout le monde. Tout n'est pas en tout et réciproquement. La bénédiction d'Isaac était là pour distinguer, pour permettre à l'un des deux de remplir une mission qui lui était propre. Parce que aucun de nous ne vaut l'autre, aucun de nous n'est comparable à l'autre, et une des grandes difficultés de la fraternité, c'est précisément la comparaison. Lui mieux que moi, ou moi mieux que lui, ou elle. Ce serait oublier, je pense, que l'expérience fondamentale que nous sommes appelés à vivre avec Dieu, c'est une expérience d'amour. C'est l'expérience de l'accueil de cet amour que Dieu nous porte. Cet attachement que Dieu a pour chacune et chacun de nous, chacune de nos vies. Et cette expérience de l'amour est toujours fondée, forcément, sur la rencontre unique de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Et je ne pourrais pas vous parler moi-même si, quelque part dans ma vie, il n'y avait pas eu un moment où, de manière personnelle, unique, difficilement parfois transmissible, s'il n'y avait pas eu cette expérience d'une rencontre personnelle avec Dieu. À travers le choix d'Isaac de n'en bénir qu'un, se dévoile quelque chose, je crois, de l'action de Dieu, du don de Dieu. En n'en bénissant qu'un, Dieu révèle à la fois le caractère unique de chaque rencontre que nous pouvons vivre avec lui et du caractère unique que lui, il est. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Dieu est unique. Et l'amour pour un seul, ou la bénédiction pour un seul, est le chemin que le Seigneur choisit d'emprunter pour qu'apparaisse son amour pour tous. Bénis celui qui te bénira, dit Jacob à son fils. Jésus est là pour nous rappeler qu'il est lui-même celui qui fait l'unité entre nous. Je relirai tout à l'heure Éphésiens 2, mais il me semble important de le souligner ici. Jacob, lui, va s'enfermer dans le mensonge face à la méfiance de son père. Et le récit nous dit bien à quel point, peu à peu, il est obligé de s'enfoncer dans la tromperie, de plus en plus. Et le récit nous tient un peu en suspense parce qu'on se dit, est-ce qu'Isaac, malgré sa cécité, le fait qu'il n'y voit rien, est-ce qu'il va réussir à dévoiler le truc et se dire qu'il est trompé? Eh bien non. Et c'est dire que si Jacob insiste tant pour recevoir la bénédiction, c'est qu'il y a là quelque chose qui est important pour lui à recevoir. Parce que la bénédiction, ce n'est pas simplement qu'un geste, c'est une promesse qui est portée et reçue. Et vous avez peut-être noté qu'à un moment donné, lorsque Ésaü se présente à Isaac, le récit nous dit que le papa est pris d'un tremblement extrêmement violent. Et je me suis dit, pourquoi ça? Bien sûr, non seulement parce qu'Isaac se rend compte qu'il a été roulé dans la farine par son fils, mais il n'y a pas que ça, je crois. C'est parce que ce père est en face d'une fraternité qui, pour se vivre, fait qu'elle est, en fait, elle a été cassée, puisqu'il a fallu que Jacob prenne l'identité de son frère Ésaü. Et une identité qui est confuse, puisque là, Jacob a vraiment pris la place d'Ésaü, il s'est fait passer pour lui. Cette identité confuse, le père le sent, le ressent, et ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas calé, qui n'est pas juste. Je n'ai pas à être l'autre, et l'autre n'a pas à être moi. Devant ces confusions, il ne peut y avoir que ce tremblement extrêmement violent dont nous parle le texte de la Bible. Il n'y a pas de fusion possible de l'un avec l'autre, même si par supercherie, Jacob prend les mêmes aspects que son frère. Il restera toujours Jacob. Il n'y a rien à faire. Il aura beau prendre d'autres habits. Et je me dis que souvent, dans notre société d'aujourd'hui, on nous fait miroiter que nous pourrions avoir une autre personnalité. Je pense que le Seigneur veut que nous soyons pleinement ce que nous sommes appelés à être. Non pas par comparaison, par imitation, comme si on pouvait supposer qu'on serait mieux si on était un autre ou une autre, mais en acceptant plutôt très profondément ce que nous sommes. Tout à l'heure, le frère parlait du puzzle, avec des pièces qu'on n'aimerait pas avoir dans son puzzle. Et c'est exactement cela. Accepter que notre puzzle est fait des pièces plus ou moins reluisantes, plus ou moins bonnes, plus ou moins belles, mais que de tout cela, Dieu seul crée une unité, fait une harmonie. Il réconcilie en moi ce qui est brisé. Non pas en éloignant ces vieilles pièces du puzzle. Mon passé à moi, qui a pu être douloureux sur certains aspects, n'est pas gommé. J'ai juste à l'accueillir de manière apaisée, parce que Dieu, lui, eh bien, j'en ai fait l'expérience, il m'y a conduit, il m'a aidé à traverser. Et il m'aide aujourd'hui à regarder ce passé non plus de manière affligée, ou triste, ou nostalgique, ou revancharde, mais dans sa paix à lui, que lui seul peut donner. Dieu n'aime pas la confusion. Mais l'histoire de Jacob va nous apprendre qu'à travers ses péripéties, ses échecs, sa vie de trompeur qui sera lui-même trompé, et ça lui fera du bien, Jacob va peu à peu gagner, non par ruse, mais il va gagner par la volonté de Dieu seul, la véritable identité qu'il est. Jacob se faisait passer pour Ésaü. Dans un épisode de sa vie, il recevra un autre nom, Israël. Et là, il trouvera enfin qui il est. Mais il faudra que Dieu lui donne cette identité-là, Israël. C'est l'histoire de Dieu avec nous qui est engagée ici, comme elle est engagée dans nos expériences heureuses ou malheureuses de fraternité. Isaac n'a plus de bénédiction à donner, et en s'interdisant de bénir son fils aîné, il aurait eu toutes les raisons d'ailleurs de sauter par-dessus cette espèce de loi. Il aurait toutes les raisons parce que d'abord Ésaü était son préféré, puis en plus c'était quand même le fils aîné. Et en plus, Ésaü était victime de son frère. Alors, sur tous les plans, j'aurais fait autrement qu'Isaac, j'aurais béni Ésaü. Mais en faisant cela, j'aurais certainement pas écouté la volonté de Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'il fait, Isaac ? Il rappelle simplement la loi. Il rappelle que, bah oui, il n'y a qu'une bénédiction qui est donnée dans cette famille de patriarches. Elle est donnée à l'aîné, et c'est ainsi. Elle est donnée une fois. Et il nous rappelle, Isaac, à travers cette façon de faire, même s'il aime ce fils aîné, et même si ce fils est spolié, et même si ce fils est victime de la tromperie, de la ruse de son frère, Isaac nous rappelle que la fraternité n'est pas une affaire de bons sentiments. Parce que si Isaac avait écouté son cœur, il aurait béni Ésaü. Mais il n'a pas écouté que son cœur. Il a écouté autre chose, il a écouté la promesse de Dieu déjà inscrite dans la vie de Jacob. Et ça, c'est son grand mérite, si j'ose dire, c'est la grande leçon que j'en reçois. Dans la fraternité, on pense souvent que oh, bah, c'est du feeling, c'est tu m'es sympathique, je t'aime bien, ta tête me revient. C'est un premier pas, mais c'est loin d'être le seul pas, c'est même loin d'être suffisant. Et on le sait tous très bien. Tu es mon frère, tu es ma sœur, parce que tu m'es donné comme tel. Non pas par les bons sentiments que nous pouvons nourrir, mais par celui qui est la source de ce lien entre nous, par Dieu lui-même. Isaac avait insisté sur le caractère unique de la bénédiction, sur le caractère unique de chacun de ses fils. Et Rebecca, elle, la maman, elle est très troublée parce que d'un seul coup, elle se dit « Nom d'un chien, je vais perdre mes deux fils en même temps. » Ésaü a des envies de meurtre vis-à-vis de Jacob. Jacob s'en va très loin, loin de la terre promise. Et Ésaü est condamné, c'est un peu ce que dit la bénédiction d'Isaac à Ésaü, la parole en tout cas, il est condamné à l'errance. Et la maman Rebecca, elle se dit « Mince, j'ai pas envie de perdre mes deux fils en même temps. » Isaac, lui, était très soucieux du caractère unique de chacun de ses fils. Et Rebecca, elle vise plutôt à garder le lien qui est commun. Elle voit la totalité, elle veut perdre rien. Et on la comprend. Et je me dis que dans ce récit, il y a cette double affirmation que chacun dans la fraternité est unique et en même temps jamais seul. Il est aussi en communion. Et le fait que Rebecca ne veuille perdre aucun de ses fils me fait penser qu'il y a ce lien qu'elle veut garder. Elle voit la totalité là où Isaac, avec raison, voyait le caractère unique. Les deux se conjuguent. Fraternité et communion sont nécessaires. Il y a à la fois le caractère unique de chacun et le lien avec tous. Et c'est cela aussi qui fonde l'Église. Parce que, encore une fois, à l'image de Jésus, qui était à la fois le Fils unique et en même temps le frère de tous, il nous est bien rappelé que nous sommes à la fois appelés à garder en nous ce caractère unique de la bénédiction que chacune de nous avons reçue, et la communion avec tous. Car il n'y a pas de fraternité sans communion. Après l'histoire de Jacob et Ésaü, voici donc deux sœurs qui vont aussi se chipoter pas mal à cause de Jacob. C'est très rare dans la Bible qu'il y ait des héroïnes, j'allais dire, sœurs. Léa et Rachel forment un couple de sœurs, pas mieux que Jacob et Ésaü entre nous. Ces deux femmes sont un peu le vis-à-vis du conflit de Jacob et Ésaü. Et quelque part, l'écrivain biblique inspiré le montre bien par plusieurs petits éléments. Vous vous souvenez que Jacob a reçu la bénédiction de son père Isaac alors qu'Isaac n'y voit rien. C'est la nuit pour lui. Et c'est dans la nuit aussi que Jacob va être trompé et que Laban aura mis dans le lit de Jacob non pas Rachel qu'il aimait, mais Léa. Et il y a donc aussi quelque part une sœur qui prend la place de l'autre. De la même façon que Jacob avait pris la place d'Ésaü, Léa prend la place de Rachel. Et donc il y a, et à chaque fois que l'une, surtout Léa, va donner naissance à des enfants de Jacob, il va y avoir une rivalité qui va monter en tension entre les deux sœurs, jusqu'à ce qu'elle pousse Jacob aussi dans le lit d'une servante pour qu'il puisse enfanter, etc. Il y a une forme de compétition, de rivalité. Et on retrouve cette rivalité-là entre femmes, comme on l'a trouvée entre les deux gaillards, fils d'Isaac. Et alors on peut se demander dans ce cas-là, je me suis demandé, mais où est passée cette promesse de fraternité? Où est passée, qui tient vraiment à rester frère ou sœur pour l'autre? Aucun humain, mais Dieu. La possibilité un jour de se retrouver en frère ou sœur, c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui le tient en lui, qui le tient dans sa promesse, dans sa main, dans sa volonté bonne pour nous. Là, tout éclate partout. Jacob est menacé de mort par son frère, il est obligé de travailler 20 ans chez son oncle pour avoir les deux épouses. Bref, tout éclate. C'est très sordide, cette histoire. Mais elle nous montre que Dieu va mettre le paquet pour qu'une fraternité soit à nouveau rendue possible, vivable, acceptable. Et l'écrivain de la Genèse nous montre sans faux semblant qu'il nous faut regarder plus haut, à penser que les anciens ne sont pas meilleurs que nous, qu'ils ont traversé des choses difficiles, que la bataille pour la fraternité est rude, mais que Dieu y tient tellement qu'il la rend quand même possible. Alors comment ça va être possible? Eh bien, il va y avoir deux étapes dans la vie de Jacob qui vont la rendre possible, cette fraternité. La première étape, elle est décisive. Lorsqu'il aura pris la décision, après 20 ans de travail, de bons et loyaux services, chez celui qui l'a trompé joyeusement, il partira avec toute sa smala, ses deux femmes, ses deux servantes, ses 12 fils, sa fille et tout son troupeau, troupeau abondant, et il reviendra au pays de la tromperie, au pays où lui-même a usurpé à Ésaü son droit d'aînesse, au pays où lui-même s'est acquis une bénédiction qui revenait à son frère. Il revient dans ce pays où il est menacé dans sa vie. Mais avant, quand il se met en route, il se met en route avec toute sa marmaille, il arrive au bord d'un torrent qui s'appelle le Yabok. Et là, il rencontre un inconnu. Et nous dit le récit biblique, il va se battre avec cet inconnu toute la nuit. Et à la fin du combat, Jacob demandera à l'inconnu, « Dis-moi, quel est ton nom ?» Encore une fois, une question d'identité. Qui suis-je ? Qui es-tu ? Et l'inconnu lui répond, « Que t'importe mon nom ?» Et Jacob demandera, « Bénis-moi. » C'est curieux. Il a été béni. Et de quelle façon ? On l'a bien vu avec son père. « Bénis-moi. » C'est-à-dire, toi, tu es la source de toute bénédiction. Et j'ai besoin que tu ravives en moi cette bénédiction pour que la promesse qui est inscrite dans ma vie puisse un jour s'accomplir. Et l'homme, l'inconnu plutôt, va le bénir. Mais il va le bénir en le rendant boiteux, c'est-à-dire claudiquant, c'est-à-dire un peu atteint dans son corps par cette rencontre. Tout ce que nous pouvons vivre, tout passage, tout torrent de Yabok qu'on a à franchir, nous, laisse aussi chez nous, chez chacun de nous, chacune de nous, une trace. On sort un peu boiteux, mais qu'importe qu'on soit boiteux puisqu'on est béni. On peut être un peu écorné par l'autre, mais qu'importe, puisque dans la fraternité retrouvée, il y a une bénédiction qui est cachée. Et dans sa rencontre avec l'inconnu qui est en fait Dieu, nous retrouvons les éléments déjà rencontrés lors de la bénédiction reçue de la part d'Isaac. Mais cette fois, ce n'est plus Jacob qui laisse planer une incertitude sur qui il est. C'est l'autre. C'est celui dont on pense au départ qu'il est l'adversaire, mais qui est en fait l'appui, qui est l'ami. Ce texte met en lumière, pour ma part, la dimension verticale de toute fraternité. Pour que je puisse rencontrer l'autre comme un frère ou comme une sœur, et que je puisse le recevoir comme tel pour moi, il faut qu'il me soit donné ou redonné par Dieu. Cela n'est possible que parce que j'ai vécu une expérience de rencontre intime, profonde, avec Dieu. Il me faut passer par cette médiation. Sans elle, je ne retrouve en l'autre que quelqu'un qui est une menace, un concurrent, quelqu'un d'hostile. Encore une fois, nos relations fraternelles ne s'inscrivent pas dans le registre du kiff, du feeling, de l'émotionnel, mais dans ce registre de notre relation de chacun, chacune avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la fraternité me semble aussi être de l'ordre de la prière et même de la contemplation. Jacob dira un peu plus loin, « J'ai vu Dieu face à face ». Alors maintenant qu'il est vulnérable, boiteux, avec un cortège de serviteurs, de troupeaux, d'enfants, d'épouses, le voilà aussi très fragile pour rencontrer Ésaü, dont il sait que son frère vient vers lui avec 400 hommes. Ennemi lui aussi, ami, qui sait. Alors, et je vais en finir par là, ce récit de la rencontre de Jacob et Ésaü est absolument, pour moi, magnifique. Et je relirai juste quelques versets à partir du chapitre 33. Je lirai les versets 8. À partir du verset 8. Ésaü dit à Jacob, à partir du verset 1. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Et il mit en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, puis Rachel et Joseph. et lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère Ésaü. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils pleurèrent. Il y avait de quoi. Puis Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui as-tu là ?»« Les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur, » répondit Jacob. Ésaü dit un peu plus loin, « Qu'as-tu à faire avec tout ce camp que j'ai croisé ?» Jacob répondit, « Je voulais trouver grâce auprès de mon Seigneur. » Ésaü reprit, « J'ai amplement pour moi, mon frère. Que ce qui est à toi reste à toi. » Jacob s'écria, « Non, je t'en prie, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, tu accepteras de ma main mon présent. En effet, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as agréé, reçois donc de moi le bienfait qui t'a été apporté, car c'est Dieu qui m'en a gratifié. J'ai tout à moi. » Il le pressa et Ésaü accepta. C'est un très beau passage. Qui aurait pu penser que ces deux frères allaient pouvoir se réconcilier ? Il y a plein de choses, en fait, qui nous montrent qu'Ésaü a fait lui aussi sa part de chemin. Il a fait sa part de chemin et j'ai 2 indices. Le premier, c'est d'abord lui qui prend l'initiative. C'est lui qui va à la rencontre de Jacob. C'est lui qui court vers lui, nous dit le texte, qui l'étreint. Le mot est très fort. Et les deux peuvent pleurer. Et puis l'autre chose, c'est Ésaü, le seul, qui va appeler Jacob son frère. Ésaü a fait un chemin, on ne sait pas lequel, la Bible ne nous le dit pas, mais il a fait un chemin intérieur pour en arriver là, pour arriver à avoir abandonné tout esprit de vengeance, tout ce désir de tuer, toute cette rancœur qu'il a pu accumuler pendant 20 ans. Ésaü a rendu les armes. Il les a rendues bien avant Jacob, je crois, puisque Jacob, lui, était encore dans la méfiance et préparait cette rencontre avec beaucoup de crainte. C'est une très belle histoire, parce qu'elle montre que les conflits, les difficultés de fraternité ne sont jamais pour toujours. Grâce à Dieu, parce qu'il y a eu cette rencontre de Jacob au torrent du Yabok avec cet inconnu qui l'a béni, grâce à Dieu, toute réconciliation est toujours possible. Oui, et ce n'est pas forcément de celui qu'on pense le plus fort que vient l'initiative la plus belle. Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. Je pense que la mention de la face, du visage de Dieu, à un moment donné, c'est Jacob qui va dire à son frère, « Je vois ta face comme j'ai vu la face de Dieu. » Pour moi, il y a énormément dans ce verset. Ça veut dire qu'en tout frère, toute sœur, je suis aussi appelé à voir le visage de Dieu. On pourrait reprendre là et refaire une autre méditation autour de ce récit, de ce verset-là. Mais la mention de la face, du visage, fait justement du récit de la rencontre de Jacob avec l'ange, ou avec l'inconnu en tout cas qui s'est battu avec lui la nuit, et puis la rencontre des deux frères, comme deux échos l'un de l'autre. La face de Dieu, la face du frère, la face de Jésus le Christ, qui se tient en interface. Il nous faut juste contempler, je crois, regarder au Christ, Jésus, pour vraiment entrer, réentrer dans la fraternité. La fraternité, ce n'est pas une fusion, un cocon chaud, un repli dans une sphère ouatée. Les deux frères réconciliés, d'ailleurs, je n'ai pas lu la fin du texte pour ne pas être trop long, mais les deux frères vont se séparer à nouveau, prendront chacun leur chemin. Mais c'est une chose de se quitter en se séparant fâché, et c'est autre chose que de se quitter en se sachant réconcilié. Savoir s'être retrouvé pour Jacob et Ésaü ne veut pas dire qu'ils vont refaire tout ensemble, tout le temps, partout. Mais ils vont chacun construire, continuer de construire leur propre vie, leur propre chemin. Jésus est celui qui est notre paix. De ce qui était deux, il a fait un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié, afin de créer en Christ les deux en un unique homme nouveau, ayant fait la paix par le sang de sa croix. Amen.